Laudetur Jesus Christus.
L'agence onusienne dédiée aux réfugiés palestiniens est depuis ce jour interdite de séjour en Israël, interdite d'y travailler, interdite aussi de communiquer avec des responsables israéliens. Une violation du droit humanitaire international qui pourrait avoir de terribles retentissements, c'est ce que nous verrons avec le porte-parole de l'UNRWA. Quel rôle pour les minorités dans la Syrie de demain? La question centrale que se posent les chrétiens. Alors que le nouvel homme fort de la Syrie vient d'être nommé président par intérim, le préfet du dicastère pour les églises orientales est de retour de Syrie. Dans ce journal, le sort de l'Est de la RDC reste à la une. Le M23 entend rester à Goma, marcher même jusqu'à la capitale. Il y a tout juste deux ans, le pape entendait des victimes de ces combattants armés lors de son déplacement à Kinshasa. Des témoignages à ne pas oublier, nous dira le nonce en RDC. Puis enfin, au Chili, le système de retraite adopté il y a 43 ans pendant la dictature de Pinochet va enfin changer. Une réforme signée hier.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. C'est une agence onusienne unique en son genre, pourvoyant depuis 75 ans des services de base aux réfugiés palestiniens, à ceux de la Nakba et à tous leurs descendants, 8 fois plus nombreux aujourd'hui. On parle d'un accès à l'éducation, aux soins garantis à 6 millions de personnes, dont 1,7 million de Gazaouis avant la guerre. Mais à compter de ce jour, l'UNRWA a été interdite par la Knesset, le Parlement israélien, de travailler justement sur le sol israélien, y compris à Jérusalem-Est. On écoute le témoignage de Jonathan Fowler. Il est le porte-parole de l'Agence des Nations Unies.
C'est très difficile à titre individuel et à titre collectif. Nous, les internationaux de l'UNRWA qui travaillent en Cisjordanie et Jérusalem-Est, on a dû partir sous contrainte hier parce que nos visas ont été raccourcis. Donc moi-même, j'étais avec les 3 derniers collègues internationaux à partir en voiture ensemble pour gagner la Jordanie où nous redéployons pendant un certain temps en train d'observer la situation. Et évidemment, c'est très difficile pour nos collègues locaux qui représentent la grande majorité des employés de l'UNRWA et ils savent pas trop encore quelle sera la situation, quels seront les risques qu'ils encourent. On est dans le flou total et ça, c'est, ça rajoute non seulement le fait que ces lois sont illégitimes sur le point de vue du droit humanitaire international, mais c'est aussi illégitime dans le sens presque moral de garder tellement de flou et pour les gens qui travaillent dans l'agence, mais surtout pour les personnes qu'elles ont nouvellement en aide. Il s'agit de dizaines de milliers de personnes seulement à Jérusalem-Est.
Jonathan Fowler, le porte-parole de l'UNRWA, et puis on reste au Proche-Orient avec ce jeudi les libérations attendues de 3 otages israéliens, une soldate de 20 ans, une civile de 29 ans, un agriculteur israélien de 80 ans, enlevés donc tous le 7 octobre, libérés après 16 mois de captivité selon l'accord de trêve conclu avec Israël, mais entourés d'une foule survoltée à Khan Younes et de nombreux hommes armés, un scénario qui a contrarié le gouvernement israélien qui a donc tardé à relâcher à son tour 110 prisonniers palestiniens. Ce soir, ces détenus ont finalement quitté la prison israélienne d'Orfer en Cisjordanie occupée. En Syrie, Ahmad al-Sharen, nommé président intérimaire hier soir pour une durée indéterminée, le dirigeant de facto du pays depuis le 8 décembre. Et la fuite de Bachar el-Assad a reçu ce soir les félicitations de l'Arabie Saoudite et surtout la première visite d'un chef d'État, l'émir du Qatar, le cheikh Tamim, l'a invité à mettre en place un gouvernement inclusif pour consolider la stabilité du pays, assurer sa reconstruction. Le nouvel exécutif entendra-t-il la voix des minorités? Quel sera le rôle des chrétiens à l'avenir? Le préfet du dicastère pour les églises orientales vient de conclure une visite sur place à la demande du pape. Et cette question fut évidemment centrale. On écoute le cardinal Claudio Guggerotti.
Je les ai surtout appelés à parler d'une seule voix, malgré la diversité de leurs traditions, de leurs institutions, de leur hiérarchie, parce que sinon il y a un risque d'insignifiance absolue. C'est aussi pour ça que j'ai rencontré les chrétiens orthodoxes. Il s'agit d'avoir une seule voix en ce moment pour défendre les exigences fondamentales, leurs exigences communes auprès de ceux qui gèrent la transition ou qui prendront la relève des forces de transition. Que les chrétiens prennent part à la reconstruction, c'est le grand défi dans la mesure où toute référence à une constitution pour le pays qui renvoie aux principes islamiques entraîne automatiquement la marginalisation ou du moins, disons, la diminution de la participation des chrétiens. Et ce ne serait pas par mauvaise volonté, mais parce que cela fait partie de la tradition. Et c'est exactement ce que les chrétiens craignent. Toutefois, cela ne suppose pas nécessairement des persécutions. Mais si l'on veut penser un État aux multiples facettes et à l'importance égale dans la composition de la société, c'est là que réside le grand rôle des chrétiens et aussi, je dois dire, le grand rôle du Saint-Siège.
Il grande ruolo dei cristiani e anche grande ruolo della Santa Sede, devo dire.
Les propos recueillis par Adamas, par Stefano Lechinski. Nous sommes à Goma pour y rester ce soir. Le sort de l'Est de la RDC reste à la une de l'actualité. Le M23 et les troupes rwandaises ont affirmé leur intention de rester en charge de la capitale du Nord Kivu, prise par la force en 3 jours. Mais leur ambition ne s'arrête pas là. Ils voudraient continuer, disent-ils, la marche de la libération jusqu'à la capitale. Depuis Kinshasa, le président Tshisekedi est sorti du silence hier soir. Il a refusé de s'avouer vaincu et a mis en garde contre un risque d'escalade aux conséquences, dit-il, imprévisibles dans la région. Et puis de son côté, le Saint-Siège prie pour le rétablissement rapide de la paix et de la sécurité dans le plus grand pays catholique d'Afrique. L'appel lancé en ce sens par le pape hier a été reçu avec gratitude en RDC. C'est ce que nous confie ce soir le représentant du pape dans le pays. Il y a tout juste 2 ans, à Kinshasa, la nonciature apostolique fut le théâtre d'une rencontre très émouvante entre l'évêque de Rome et 4 victimes d'exactions du M23. Une violence qui semble sans fin, regrette l'actuel nonce, Monseigneur Lescovar. On écoute.
Quand je lis ce témoignage-là, je suis resté vraiment profondément touché par des raisons. La violence, la haine de certaines personnes, la parfois bestialité de cette violence, c'est vraiment étonnant. D'autre côté, aussi la capacité de pardon de ces gens-là qui sont des victimes. Ils ont porté, par exemple, une machette ressemblant à la machette qui a tué le père ou toute la famille d'une des victimes. Ça, c'est seulement un exemple. Donc, dans ce sens-là, les paroles, les témoignages très, très touchants. Malheureusement, je crois qu'il y a trop des hommes qui ont oublié ça. Mais ça ferait bien, ça ferait énorme bien de se relire. Il y a par exemple, ce matin, une de mes collaborateurs m'a informé que voilà, le commentaire des gens simples au discours du président de la République qui s'est prononcé hier soir sur toute la situation, et le commentaire des gens. Il y a quelqu'un qui a écrit au-dessus son commentaire. Président, sans belles paroles, mais nous voulons la guerre. Cet homme-là n'est pas lu ces témoignages. Il ne sait pas ce qu'il dit. C'est terrible. Malheureusement, oui, trop de personnages, trop de personnes communes aussi ont oublié ces témoignages-là.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Ce pourrait être la pire catastrophe aérienne en plus de 20 ans aux États-Unis. Le pape François a exprimé sa proximité spirituelle avec toutes les personnes affectées aujourd'hui par la collision mortelle hier soir d'un avion de ligne et d'un hélicoptère à seulement quelques kilomètres de la Maison-Blanche à Washington. 67 personnes pourraient avoir perdu la vie. Dans un télégramme adressé au président Trump, le Saint-Père dit recommander les âmes des défunts à la miséricorde aimante de Dieu Tout-Puissant. Le président américain qui vient de prendre la parole, accusant notamment ses prédécesseurs démocrates d'avoir baissé les exigences en matière de contrôle aérien. Au Chili, le Parlement a approuvé hier soir un projet de loi impulsé par le président de gauche, Gabriel Boric, visant à réformer le système de retraite privée hérité de la dictature du général Pinochet. Les explications de Manon Bellal à Santiago.
72% des pensions de retraite sont inférieures au salaire minimum, ce qui correspond à 500 euros. Le système chilien par capitalisation privée est donc très vivement critiqué. Pour l'améliorer, la réforme qui vient d'être adoptée comporte 2 points principaux. Le premier, c'est que les employeurs vont contribuer aux retraites des employés, alors que jusqu'à présent, seuls les travailleurs finançaient leur retraite. Et le deuxième, c'est l'augmentation d'environ 40 euros de la pension universelle garantie, une aide de l'État pour les retraites les plus basses. Le but est de compenser ainsi l'écart entre les pensions des hommes et des femmes, elles qui gagnent moins en moyenne tout au long de leur vie et qui ont une plus longue espérance de vie. Le gouvernement estime que cette réforme, qui faisait l'objet d'âpres discussions depuis 2 ans, permettra d'augmenter les pensions des retraités chiliens de 14 à 35%. Cette adoption au Sénat hier était extrêmement importante pour Gabriel Boric dans la perspective de l'élection présidentielle à la fin de l'année, puisqu'après l'échec du changement de constitution, c'est l'une de ses seules promesses électorales qui aura abouti pendant son mandat. Marion Bellal, à Santiago du Chili, pour Radio Vatican.
En Norvège, la coalition gouvernementale implose avec le départ du parti du centre opposé à des directives européennes sur l'énergie que ses partenaires travaillistes veulent appliquer dans le pays à un peu plus de 7 mois des prochaines législatives. Les travaillistes du Premier ministre continueront donc seuls à gouverner, le système norvégien ne permettant pas de dissoudre le Parlement. La Suède annonce sa plus grosse aide militaire à l'Ukraine. Aujourd'hui, 1,18 milliard d'euros supplémentaires d'aide sont confirmés. Donc ce jeudi, en France, près de Lyon, dans une nécropole dédiée aux tirailleurs sénégalais ayant combattu pour la France, plusieurs dizaines de plaques de sépulture ont été dégradées. Cela a été découvert hier. Ce soir, le président français s'indigne, parlant de honte et d'indignité. La France qui a rétrocédé ce jeudi sa dernière base militaire au Tchad avec une cérémonie à huis clos. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde revient demain matin à 8h30. Une excellente soirée à tous.